Et c'est Angèle que j'accueille maintenant. Bienvenue à vous, Angèle, bonsoir.
Oui, bonsoir.
J'aime beaucoup votre prénom.
Bon, c'est pas mon prénom, mais c'est mon troisième prénom et c'est celui que j'aime le mieux.
Ben, il est très joli en tout cas. Et qu'est-ce qui vous amène, Angèle, alors?
Ben, c'est la personne que vous avez eue tout à l'heure qui avait deux enfants et qui en préférait un par rapport aux autres.
Dominique, oui.
Voilà, c'est ça. Alors moi, j'ai quatre enfants qui sont totalement différents, mais je les aime tous autant les uns que les autres. Et beaucoup avec leurs différences et des caractères très, très prononcés, comme des bons normands. Et moi, voilà, moi j'ai subi toute ma vie, et encore maintenant, j'ai 66 ans, la détestation de ma maman, parce que je suis ronde et qu'elle fait 40 kilos, et moi je fais 85 kilos.
Et alors en quoi c'est un souci pour elle?
Ah ben, elle dit toujours que si je suis ronde, c'est un manque de volonté.
Ah oui, bien sûr.
Donc, dès qu'elle m'a raconté ma naissance, c'était un accouchement horrible, parce que j'étais trop grosse. À l'époque, les mamans accouchaient à la maison. Donc, on lui a extirpé cet enfant du ventre, et les voisines qui sont venues, elle me dit toujours que les voisines disaient qu'elles n'avaient jamais vu un enfant aussi moche.
Oh, c'est charmant.
Oui, mais c'est vraiment quelque chose qui vous marque.
Ben, y a de quoi ? Qu'est-ce que c'est que ces gens-là ? Mais vous étiez un bébé qui pesait combien ? Vous étiez vraiment hors norme ?
Ben non, mes mamans, elles faisaient 38 kilos. Et moi, je faisais 3,5 kg à la naissance.
Donc c'est même pas... Parce qu'il y a des bébés qui font 4,5 kg, hein.
Non, je faisais 3,5 kg.
Tout à fait dans la norme.
Elle a eu un accouchement très très dur, on lui a mis des fers, donc on m'a écrasé la tête.
Les forceps.
Voilà, les forceps, on m'a écrasé la tête, donc je devais être complètement défigurée. Donc les vieilles voisines à l'époque dans le village qui venaient voir le nouveau-né, on dit qu'elles n'avaient jamais vu un enfant aussi moche.
Alors, c'est grotesque, parce qu'on sait très bien qu'avec les forceps, effectivement, ça déforme un peu le crâne, mais ça ne dure pas. Quelques jours, voire quelques semaines après, le crâne redevient rond.
Oui, voilà. Je ne sais pas, mais moi, c'est ce que j'ai retenu de ça.
Ben évidemment.
Parce que quand on vous dit ça, après, je n'aurais jamais dit ça à mes enfants.
Ben c'est extrêmement maladroit, violent et méchant.
Oui, voilà. Alors, maman me l'a raconté. Moi, j'estime qu'elle n'aurait jamais dû me le raconter.
On est bien d'accord.
Parce que les voisines, elles sont agressives et voilà. Donc j'étais très moche, j'avais le visage violet, une tête d'œuf, voilà.
Donc, grosso modo, si vous aviez pu éviter d'arriver, ça aurait été mieux, quoi, si je comprends bien.
Voilà, c'est ça. Donc, et puis, elle ne voulait pas une fille, elle voulait un garçon. Donc, j'avais tout ce qu'il fallait. Et puis, voilà. Et puis, 4 ans après moi, est né mon frère. Mais à l'époque, moi, je suis née en 55 et mon frère est né en 58. Donc, à l'époque, les mamans allaient accoucher en clinique. Et raison de plus, c'est que mes parents avaient attrapé la tuberculose entre deux, puisque, voilà, il y avait, à cette époque-là, la tuberculose n'était pas résolue. Donc, papa et maman avaient eu la tuberculose. Donc, j'ai été séparée de mes parents pendant 6 ou 8 mois. Donc, je n'ai pas vraiment créé le lien... Voilà, et j'ai eu des piqûres très très longtemps parce que mes parents étaient en sanatorium, tous les deux, à l'hôpital Pasteur à Cherbourg. Et moi, j'ai été placée chez ma marraine, ou alors j'étais la petite reine, toute petite, voilà. Et j'adorais ma marraine, et je l'adore encore parce que je crois que c'était la plus belle période. Je devais avoir de 2 à 4 à 3 ans et demi, quoi, voilà.
C'est la seule qui vous a laissé une place.
Voilà, et puis je me souviens toujours, après quand mes parents sont rentrés du sanatorium, je me rappelle toujours, mais c'est marrant, c'est des souvenirs qui vous marquent à vie. J'avais 3 ans et demi, 4 ans, et je prends encore voir la bonne sœur, parce qu'on appelle ça des bonnes sœurs chez nous, qui venait avec son Solex, avec sa cornette, me faire des piqûres tous les jours. Pour d'antibiotiques, parce que j'avais des résidus de tuberculose, quoi, voilà. Mmh. Et puis, quand mon frère est né, ben, lui, il est né à la maternité, il était mis en quarantaine, et mon frère ressemble à maman, il était très fin, etc. C'était pas du tout...
Vous m'aviez pas dit, votre père était fort ?
Oui, mon papa était...
Ah, donc vous ressembliez à votre papa ?
Voilà, je ressemble à mon papa, et du côté de mon père, ils sont tous très ronds, très grands et très ronds. Et puis je me dis toujours que le jour où je vais mincir, c'est que, parce que quand ils maigrissent, c'est qu'ils vont bientôt mourir.
Ah bah parce oui, donc effectivement, c'est compliqué pour vous à gérer ça.
Tous mes oncles et tantes, quand ils commencent à maigrir ou à mincir, ils vont bientôt mourir. C'est des maladies intestinales, des cancers des intestins, parce que c'est un peu héréditaire, un cancer des intestins, etc. Donc ils finissent toujours comme ça, quoi. Mais moi, voilà, si je suis ronde, c'est un manque de volonté.
Oui, mais ça, c'est absolument... Enfin, vous savez que ça en dit long sur elle. C'est de la bêtise, c'est de la méchanceté. C'est tellement pas vrai, quoi. La volonté n'a rien à voir là-dedans.
Oui, mais je l'entends depuis tellement, tellement d'années que c'est devenu pour moi... Vous vous rendez compte, j'ai 66 ans, maman a 90 ans, et je le supporte encore. Donc, malheureusement, mon frère était jockey, donc il était très, très mince. Il avait une hygiène de vie... Une hygiène de vie, moi j'appelle pas ça une hygiène de vie, parce que pour être mince, il faisait 1m80, et voilà, pour monter à cheval à 1m80, ils prennent des cochonneries, hein. Faut pas cacher le milieu des chevaux, hein. Ah. Mon frère courait sur des grands champs de course, c'était un grand jockey, donc voilà. Mais voilà, pour pas grossir, il se dope à autre chose, il ne mange pas. Ils boivent du café et des salades. Voilà, il ne faut pas qu'ils fassent plus de tant de kilos s'ils veulent monter, parce qu'après...
Ah oui, c'est une torture, hein, ça, on sait ça. Que c'est...
Ah oui, mais le milieu des jockeys est un milieu très, très spécial. Le milieu des courses, il y aurait beaucoup de choses à voir dans ce milieu-là. Mais bon, voilà, il y a beaucoup d'argent, on ne restreint pas. Et mon frère, mais j'adore mon frère, il me manque, si vous saviez... moi, j'ai perdu mon mari. Mon frère est mort en 2002. Il avait 43 ans. Et mon mari est mort en 2003. Il avait 47 ans.
Qu'est-ce qui leur est arrivé à l'un et à l'autre ?
Cancer.
Oh là là.
Voilà. Donc, je me dis toujours, vous voyez, ça fait 19 ans que je suis veuve. Je n'ai jamais refait ma vie. Jamais, jamais. Parce que je me suis consacrée à mon métier totalement. J'avais encore des enfants qui étaient jeunes, à mon métier, j'avais un métier que j'adorais. Et puis voilà, ça fait que 2 ans que j'ai pris ma retraite. Et je dis toujours, après on comprend, on ne comprend pas, mais mon frère me manque plus que mon mari. Mmh. Alors, est-ce que c'est bizarre de dire ça ?
Bizarre, Pépé. Qui peut se permettre de juger quelque chose comme ça ? C'est pas la même...
Je sais pas, mais moi, mon frère manque plus que mon mari, parce que mon mari, moi, je l'ai rencontré, j'avais 16 ans, et lui, il avait 17 ans, donc je me suis mariée, j'avais 18 ans, à 20 ans, j'avais mes deux filles, donc voilà. Et mon frère, c'était notre enfance qu'on a passée ensemble.
C'est ça, c'est ce que j'allais vous dire, c'est que vu l'enfance que vous me décrivez, il a été quand même votre rock, il a été le seul qui a été là à ce moment-là.
Oui, voilà, c'est ça. On avait des parents qui étaient très, très, mais alors très, très, c'était des agriculteurs très, très autoritaires, voilà, très, très stricts. On n'avait, par exemple, pas le droit d'allumer la lumière le soir, pas d'électricité.
Pourquoi ? Pour des raisons d'économie ?
Oui, des raisons d'économie. Donc, on avait suffisamment avec la cheminée, la lumière de la cheminée.
Ah oui.
Donc, mais alors on était rusés, parce qu'on savait que quand ils allaient traire les vaches, ils en avaient pour 2 heures. On buvait, quoi. On était un quart d'heure, un quart d'heure avant qu'ils rentraient, voilà, on éteignait la lumière, quoi. Mais ma première télévision que j'ai eue, c'est quand je me suis mariée en 73, vous voyez un peu.
Ouais. Mais ce que j'entends, c'est que cette complicité avec votre frère, c'était votre bouffée d'oxygène pour supporter tout le reste.
Oui, hein. Voilà, c'est ça.
C'est et pour puis, ça qu'il vous manque tant.
Voilà, et mon frère, il a quitté la maison à 14 ans au début, parce qu'il est parti pas loin, puis à 16 ans, il est parti dans des grandes écuries nationales, quoi. Donc il est parti du côté de Laval et puis après à Fontainebleau, donc des écuries. Et lui, il avait 16 ans et moi, j'en avais 19, quoi. Donc on s'est séparés et on a cassé le lien. Au moment où on aurait pu avoir, on avait une grande, grande complicité, tout a été cassé, quoi. Parce que quand on est enfant, entre garçons, on avait quand même presque 3 ans et demi d'écart, quoi. Donc voilà, et puis on a eu des parents sévères, donc lui, il cassait mes jouets, etc. C'était compliqué. Et puis au moment, à l'adolescence, où moi j'avais 16 ans et lui il avait 13 ans, on commençait vraiment à bien s'entendre. Lui, il a vraiment fui parce qu'il supportait plus l'autorité parentale, quoi.
Ouais.
Mais vous voyez, moi, encore maintenant, j'ai toujours entendu maman me dire ça. Mais c'était toute ma vie que j'ai entendu dire que si j'étais ronde, c'était parce que c'était un manque de volonté, etc. Moi, j'ai fait des tas de régimes, mais voilà, je n'arrive pas à mincir. Le stress me fait grossir.
Alors, ce qui est intéressant dans votre histoire, c'est qu'il y a deux axes de ce que j'entends. D'abord, effectivement, sur le plan physiologique, vous avez hérité plutôt du côté de papa, donc du côté de ceux qui sont un peu forts.
Ah bah oui.
Donc ça, vous n'y pouvez pas grand-chose, ça, c'est la génétique.
Non, mais tous mes oncles et tantes étaient très, très, très grands, et très, très, très rondes. Et je me dis toujours, quand j'ai vu mes tantes et mes oncles maigrir, c'est qu'ils n'étaient pas loin, ils avaient tous des cancers.
Alors voilà, deuxièmement, il y a cette croyance-là qui est en vous.
Oui.
Et qui n'est pas une vérité, puisque en fait, beaucoup de gens peuvent maigrir sans être malades, mais vous avez cette croyance-là qui forcément vous empêche de maigrir. Parce que quelque part, dans le fond de votre esprit, vous associez la minceur à la mort, à la maladie.
Peut-être.
Donc ça, c'est déjà un blocage. Et puis autre chose, on dit souvent que quand il y a un moins, la nature met un plus. C'est-à-dire que si on ne vous fait pas de place dans cette famille, ce qui a l'air d'être le cas, inconsciemment, vous prenez de la place physiquement aussi.
Oui, voilà. Alors mon père est mort il y a plus de 10 ans, mais voilà, bon, j'avais des relations un peu compliquées avec mon père. Et puis là, ben, maman, ben, ça fait plus de 10 ans que... Maman, elle a 90 ans, et moi, j'ai 66 ans, et je l'entends encore régulièrement. Là, le médecin est venu hier, elle a pris 1 kilo, vous vous rendez compte? Elle a 90 ans, elle a pris... on lui donne des compléments alimentaires parce qu'elle est sous-nutrie, etc. Elle fait 42 kilos, elle a pris 1 kilo, c'est un drame.
Vous voyez, c'est son histoire à elle qu'elle vous raconte, c'est pas la vôtre en réalité. Elle projette ses propres angoisses sur elle. Mais moi, ce que j'entends surtout, c'est que vous êtes encore, j'ai l'impression, dans l'attente de quelque chose vis-à-vis d'elle, d'une reconnaissance ou d'un amour.
Oui, mais je ne l'aurai plus parce que là, elle a 90 ans, elle a un début d'Alzheimer et mes enfants m'ont dit un petit peu depuis 2 mois de temporiser parce que je crois que j'allais faire une dépression. Donc elle croit toujours que malheureusement mon frère est décédé. Donc son fils ne vient pas la voir, mais ils n'ont pas été gentils avec lui non plus parce que lui malheureusement il a hérité de moi, il est rond. Donc mes parents l'ont pas vraiment accueilli parce que voilà, s'il est rond c'est parce que il fait pas attention, etc. Ben, quand il était jeune, parce que maintenant, il a presque 40 ans, et il est grand, il est mince, quoi. Mais voilà, mes parents, ma maman est restée sur ce modèle-là. Donc voilà. Et puis maintenant, elle a 90 ans, et elle me... Et puis malheureusement, la tête n'est plus toujours là, donc...
Mais je pense que le problème est plus profond de son côté à elle, parce que vous m'avez dit tout à l'heure 36 kilos, c'est ça?
Elle ne veut jamais dépasser les 40 kilos.
Mais c'est un problème quasiment d'anorexie, non? Ça n'a pas été...
Oui,
c'est ça.
Oui, voilà, c'est ça.
Il y a un déséquilibre complet dans son rapport au corps.
Oui, voilà, c'est ça. Mais après, elle a eu une enfance très difficile. Elle a perdu sa mère à 5 ans. Après, voilà, je ne la juge pas. Elle a eu une enfance très, très difficile. Moi, je dis toujours, elle a eu une enfance à la Cosette, voilà, parce que mon grand-père s'est remarié avec une belle-mère, avec des enfants, et maman a été le vilain petit canard, voilà.
Il y a toujours une raison, de toute manière. Quand on se comporte comme ça, c'est forcément qu'il y a eu des grosses blessures à l'origine, ça, c'est clair.
Oui, mais on peut les réparer. Elle n'est pas capable de les réparer.
Voilà, c'est ça, sa responsabilité à elle. Mais c'est compliqué parce que c'est la génération où on n'allait pas facilement parler de soi et se faire soigner. Sur ce plan-là.
Oui, voilà, elle ne s'est jamais fait soigner. Et voilà, alors elle me dit toujours, alors maintenant, mon neveu s'en occupe pas. Mon frère est décédé, donc mon neveu s'en occupe pas, mais il a ses raisons aussi. Donc voilà, c'est moi qui m'en occupe, mais elle veut pas aller en maison de retraite. Elle a 90 ans, elle veut pas aller en maison de retraite. Moi, j'habite à côté, j'y vais 4-5 fois par jour, mais là, depuis...
4-5 fois par jour ?
Oui.
Oui, alors, Angèle, faites vraiment attention à vous, parce que j'ai ce sentiment que vous espérez quelque chose qui ne va pas venir. Vous attendez encore vraiment une reconnaissance, là ?
Non, mais je n'attends pas de reconnaissance.
J'ai peur que vous preniez un mur.
Oui, ben mes enfants me le disent, donc, parce que là, ça fait 2 mois que ça ne va pas très très bien, donc où elle m'insulte, quand on a un début d'Alzheimer, elle m'insulte, elle m'accuse de la voler, mais elle accuse aussi les aides ménagères, les infirmières de la voler, etc., quoi. Et puis, ça peut aller très très loin, donc ces insultes, elles peuvent être très très méchantes, quoi. Donc, mes enfants se sont rendus compte que... Donc, ils essaient de me protéger, quoi, parce qu'ils me disent...
Oui.
J'y vais, par exemple, j'y vais le matin à 9h30, parce que j'habite juste à côté, j'y vais à 9h30, j'y vais à midi pour lui préparer son repas ou si elle a une aide ménagère, donner les directives. J'y retourne à 15h. J'y vais à 17h30 pour la faire manger. Et le soir, je vais toujours voir à 20h qu'elle est couchée, quoi. Mais je n'ai plus de vie, quoi.
Vous me l'ôtez de la bouche. Votre vie à vous, c'est quoi ?
C'est elle.
Et pourquoi vous faites ça ?
Je sais pas, parce qu'on m'a appris à respecter les anciens.
Non, mais là, on n'est plus dans le respect des anciens. Ça va beaucoup plus loin que ça.
Oui, peut-être, oui.
Respecter les anciens, ça serait y aller sérieusement une fois par jour, c'est déjà énorme. Vous y allez 5 fois par jour et en plus pour vous faire maltraiter. Donc c'est là que je vous dis attention, je pense que vous êtes inconsciemment en attente de quelque chose qui malheureusement risque de ne jamais arriver.
Ah non, je sais que ça ne viendra pas.
Vous attendez une réparation, vous espérez une réparation et vous espérez un amour qu'elle n'a pas su vous donner et en même temps en faisant ça, vous vous pourrissez la vie vous-même.
Oui, parce que quand les médicaments, je lui fais son pilier. Bon, le matin, c'est les dames qui viennent lui faire la toilette qui lui donnent ses médicaments. Mais elle veut avoir ses médicaments à disposition. Donc, j'ai fait le pilier pour le soir. Mais par exemple, les cachets pour dormir, elle veut les avoir à disposition. Donc, des fois, elle en prend deux, mais elle n'accepte jamais de dire qu'elle en a pris deux. Si je lui mets la boîte, on a eu des problèmes là, il y a 2 mois avec le médecin parce qu'elle avait pris la boîte de médicaments sur 2 mois, elle avait pris en 1 mois, donc elle dormait tout le temps. Mais non, mais c'est pas elle, elle est hyper agressive. Non, non, mais c'est moi ou c'est les aides ménagères qui lui prennent ses pilules, quoi.
Oui, j'ai bien compris tout ça, mais c'est pour ça que ce que j'essaie de vous dire, c'est protégez-vous.
Oui, mais c'est compliqué.
Je crois que vous ne vous rendez pas compte que malheureusement, vous vous mettez là dans une situation de dépendance, d'attente de quelque chose. Réfléchissez bien à ça.
Oui,
que vous n'aurez pas, comme si vous espériez encore avant son départ qu'elle puisse réparer quelque chose qu'elle a cassé en vous, petite. Mais elle ne le fera pas parce qu'elle n'en est plus capable maintenant.
Oui, parce que c'est pas moi qu'elle aurait voulu qu'il survive.
En plus, mais tout ça, vous l'avez compris. Et franchement,
oui, mais elle le dit.
Si elle a quelqu'un qui peut parfaitement lui mettre d'avance les pilules pour la journée, vous ne croyez pas qu'une fois par jour, ça suffirait ? Et vous libérez du temps pour vous, ça serait un peu urgent. La vie passe vite. Hein.
Là, maintenant, ça fait 3 semaines là, que j'ai décidé de me libérer une journée la semaine. C'est pas beaucoup, mais je me libère soit pour aller manger avec des copines, parce que je n'ai plus de relation avec personne, parce que 5 fois par jour, voilà.
Non, c'est plus de vie du tout, forcément.
Donc, je n'ai jamais refait ma vie, mais après, je n'ai pas refait ma vie parce que je l'ai consacré à mon métier. Mais ça fait 2 ans et demi que j'ai pris ma retraite, donc j'espérais autre chose que ça de ma retraite, quoi. Et puis, je me retrouve à m'occuper d'elle et puis que je n'ai plus rien. Donc là, depuis 3 semaines, j'ai décidé que je me prendrais une journée la semaine pour aller manger à l'extérieur. Je m'arrange soit une journée où elle a les aides ménagères qui peuvent lui faire à manger.
Bon, c'est déjà très bien. Mais est-ce que vous avez parlé à une thérapeute de tout ça ?
Non.
Non, mais je crois qu'il faut... Oui, hein, il me semble que là, il y a quelque chose quand même, parce que la vie passe vite et la vôtre aussi.
Oui.
Et une fois de plus, là, c'est déjà, vous avez pris conscience de ça. Vous prenez un jour par semaine, c'est très peu, mais c'est déjà énorme par rapport à ce que vous faisiez avant. Vous m'appelez pour en parler, ça veut dire que vous avez conscience qu'il y a quelque chose qui n'est pas dans l'axe.
Oui.
Et je vous dis une fois de plus, faites attention, vous êtes en train d'essayer d'espérer une réparation qui n'arrivera à quasiment 100%.
Qui n'arrivera pas. Non, je sais bien qu'elle n'arrivera pas, parce que je ne suis pas ce qu'elle voudrait que je sois.
Mais je pense que vous le savez bien intellectuellement, mais qu'émotionnellement, comme je dis souvent à l'intérieur, il y a une petite fille qui espère encore ça. Parce que pour y aller 5 fois par jour, c'est qu'il y a une attente quelque part encore. Et c'est peut-être ça qu'il faudrait travailler avec un thérapeute, comprendre que ça n'est plus la peine d'attendre ça. Ça ne sert à rien.
Oui, mais après, on ne peut pas, pas chez moi, pas dans ma famille, je ne peux pas la mettre en maison, elle ne veut pas aller en maison de retraite.
Attendez, Angèle, il y a un juste milieu, entre 5 fois par jour et rien. C'est une question de curseur, là, dans votre histoire.
Oui, je sais bien.
Que vous ayez du respect, des devoirs vis-à-vis d'elle, très bien. C'est tout en votre honneur. Mais là, c'est démesuré.
Ben oui, je vous dis, j'y vais à 9h, j'y vais à midi. Cette année, j'ai dit que l'année dernière, elle était encore un petit peu gentille. Donc l'hiver, c'est pas qu'on ait vraiment des échanges, mais on regarde la télé, puis moi je tricote, je passe une heure et demie avec elle, mais ça pouvait être sympa, c'était sympa, quoi. Elle regarde son émission, on discute. Voilà, bon, elle n'est pas toujours là, elle est toujours dans les temps anciens, mais voilà. Mais maintenant, c'est plus du tout ça, quoi. Donc j'y vais vraiment parce que je suis obligée, quoi. Par obligation.
Vous n'êtes pas obligée, Angèle. En tout cas, il y a une partie de vous qui sera obligée.
Oui.
Et c'est pour ça que je vous dis, faites-vous aider par quelques petites séances avec un thérapeute pour parler de ça et comprendre que vous n'aurez pas ce que vous espérez.
Mais je sais bien.
Il y a un deuil à faire déjà avant même qu'elle s'en aille. C'est ce deuil de la maman que vous auriez aimé avoir. Et qu'elle n'a pas été et qu'elle ne sera plus maintenant. En plus, si elle démarre un Alzheimer, il y a encore moins de chance. Hein.
Oui, mais après, je lui trouve toujours des excuses parce qu'elle, elle n'a pas eu de maman non plus.
Oui, mais c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Ça explique, ça n'excuse pas. Elle aurait pu se soigner pour ne pas vous faire vivre tout ça. Vous n'étiez pas un punching ball, vous étiez sa fille.
Oui, à l'époque, on se soignait pas et puis... elle aurait tellement... malheureusement, mon frère était ce qu'elle voulait, voilà. Il était mince, il a fait une carrière. Malheureusement, il a pas vécu longtemps parce que, il a brûlé la chandelle par les deux bouts, puis il est mort d'un cancer à 43 ans du pancréas, mais voilà. Mais voilà, lui, quand elle part, c'est toujours... elle veut pas admettre que moi et mon frère, on ne se ressemblait pas du tout, quoi. Donc moi, j'ai eu 4 enfants, j'étais mariée, mon mari est artisan, j'étais mariée, j'ai élevé mes 4 enfants, j'étais très, très terre à terre, j'ai prévu l'avenir, etc. Mon frère, il était comme mon grand-père, il courait les femmes. Il a eu un fils, mais il était divorcé. Mon neveu avait 8 mois. Mon frère était quelqu'un, un jouisseur de la vie. Après, il me disait toujours, quand on en parlait, parce que c'était bizarre, parce qu'on aurait dit qu'il savait qu'il aurait pu vieillir, parce que je disais, mais tu te rends pas compte, tu vois comment tu vis, tu brûles la chandelle par les deux bouts, tu mets pas de sous de côté, tu prévois pas l'avenir. Hein. Tu sais, moi, j'irai jamais à la retraite. Voilà, c'était vraiment quelqu'un, un jouisseur, un profiteur. Il a eu une très, très belle vie, Mais il a pensé qu'à lui. Il n'a même pas pensé à son fils ni à mes parents, quoi.
Mais Angèle, vous ferez bien aussi de penser à vous un petit peu plus. Hein.
Oui, je crois.
Il me semble aussi. Réfléchissez à tout ça. À chaque fois, depuis tout à l'heure, à chaque fois que je vous dis ça, il y a un mais derrière. Oui, mais. enlevez ce mais, s'il vous plaît. Réécoutez peut-être notre échange. Demain, sur europe1.fr, en podcast.
Oui.
Et vous allez vous rendre compte que vous dites un oui-mais à chaque fois que je vous ouvre une porte. Et réfléchissez.
Oui, mais. Je ne peux pas l'abandonner.
Personne ne vous demande de l'abandonner. Je vous dis qu'il y a un juste milieu. Et qu'il y a des choses à comprendre sur la manière dont vous vous comportez, justement.
Oui.
réfléchissez à tout ça.
D'accord.
Trouvez ce juste milieu qui vous permet de ne pas l'abandonner, de faire ce que vous avez à faire, ce qui vous semble juste et correct, mais de penser aussi à vous.
Oui. Pour moi, c'est très, très compliqué.
Ça s'appelle pratiquer un égoïsme sain.
Oui.
Parce que tant qu'on... Vous savez, on a une flamme en nous à nourrir. Si on veut que les autres puissent venir allumer leur lumière à notre flamme, il faut la nourrir soi-même, notre flamme.
Oui, puis après, on transmet toujours quelque chose à nos enfants.
Le jour où on n'a plus notre flamme, on ne peut plus rien transmettre à qui que ce soit.
Parce que moi, ma mère, elle a transmis à une de mes filles l'anorexie. Moi, j'ai une fille, elle ne veut jamais passer les 40 kilos, quoi.
Ouais, il y a un lien avec les femmes dans votre famille qui est compliqué.
Oui, très.
Ouais, effectivement. Ouais. Donc, ça serait bien que vous alliez parler de ça avec un thérapeute.
Oui, parce que c'est vrai que ma fille, j'ai une fille, elle ne veut jamais passer la barre des 40 kilos. Quoi. C'est vraiment, c'est comme maman. Quoi. Elle veut pas, elles sont minces, elles ne veulent pas passer. Alors, maman, c'était les travaux des champs, etc. Et ma fille, elle vit dans le sud et c'est le sport. Voilà. Donc, il faut qu'elle soit mince, qu'elle soit belle. Et puis, quand on est un petit peu ronde, voilà. C'est compliqué, mais c'est tellement difficile d'être dévalorisé par sa maman que...
C'est pour ça que je vous dis que vous espérez encore quelque chose de l'ordre de la réparation. Et c'est là où il va vraiment falloir travailler, et rapidement, avec un thérapeute là-dessus.
D'accord.
Elle vous a beaucoup dévalorisé, mais elle ne va pas changer quoi que ce soit parce que vous venez 5 fois par jour, malheureusement.
Non, je sais bien, oui.
Mais je ne suis pas sûre que toutes les parties de vous le sachent vraiment bien. Je pense qu'intellectuellement, vous l'avez bien compris, mais dans votre cœur, c'est encore pas sûr, cette histoire.
Oui.
Hein ? Ça va ?
Oui, mais on espère toujours.
Ah ben voilà, ça y est, on a le doigt dessus. Il n'y a plus de oui, mais vous avez compris ce qui se passe. Exactement. Bien sûr qu'on espère toujours, c'est humain. Intellectuellement, on a parfaitement compris ce qui se passe, c'est le fameux oui, mais. Mais émotionnellement, on est toujours une petite fille qui espère récupérer cet amour qu'on n'a pas eu parce que ce n'est pas juste ce qui s'est passé. Oui. Malheureusement, vous avez aussi compris que voilà, elle a fait ce qu'elle a pu avec ce qu'elle avait. Et que
Je n'en veux pas parce qu'elle a eu une enfance très très difficile.
Et bien voilà, sa propre enfance a été tellement difficile et lourde que malheureusement, elle n'avait pas beaucoup de moyens de vous aimer davantage.
Oui, maman. Oui, elle ne pouvait pas m'aimer davantage, mais pourquoi elle a pu aimer mon frère? Parce qu'il était mince et qu'il lui ressemblait.
Parce que justement, vous avez réveillé des blessures en elle, qui n'étaient pas soignées.
Ou alors parce que je ressemblais à mon père.
Peut-être aussi, voilà, c'est toutes ces choses-là. Mais ce qui est important de comprendre aujourd'hui, c'est que votre comportement, vous ne pouvez pas la changer, elle, mais vous pouvez changer la manière dont vous vous positionnez par rapport à elle.
D'accord.
Et comprendre que ce n'est pas en y allant 5 fois par jour que ça va vous réparer, vous, loin de là.
Oui, mais je me fais tout le temps, je me mets toujours des barrières, quoi. Je ne sors pas aussi, si je fais mes sorties, je les fais par rapport aux infirmières, aux aides ménagères.
Vous ne vous autorisez pas à lâcher un peu prise et à penser à vous.
Oui, c'est ça. Oui, et puis quand là, je suis partie juste... cette année, l'année dernière, je suis pas partie. Cette année, je suis juste partie une semaine chez ma fille à Antibes.
Oui, c'est ça, vous ne vous autorisez pas. Mais vous m'avez dit vous-même, elle vous a dévalorisé beaucoup. Mais aujourd'hui, vous vous dévalorisez vous-même en faisant ça.
Oui, mais elle me fait tellement... Je suis partie chez ma fille une semaine à Antibes, mais elle me l'a fait tellement, tellement payé quand je suis rentrée que je n'ai même plus envie de partir parce que j'en ai tellement bavé pendant 2 mois que...
Vous vous rendez compte du pouvoir que vous lui accordez, que vous lui laissez encore aujourd'hui sur votre vie?
Oui.
C'est beaucoup trop.
Oui.
Ah, il n'y a pas de oui mais, c'est bien, c'est en avance.
Oui, je me rends compte, mais...
Ah,
oui,
voilà le mais. Il arrive. Chassez le mets au galop, il reviendra.
D'accord.
Non, mais c'est vraiment important que vous compreniez ça. C'est que, bien sûr, vous savez, vous, intellectuellement, mais malheureusement, ce que vous espérez ne viendra plus. Et oui. Si elle vous a dévalorisé, essayez vous-même de vous comporter, de vous donner cette valeur à vous-même, de vous accorder cette valeur. C'est-à-dire le droit de vivre aussi, d'être heureuse, d'avoir du temps pour vous, pour vos copines, pour des choses qui vous font du bien, et pas que pour elle.
Oui, mais avec elle depuis plusieurs années, je me suis coupée de toutes mes amies,
Et ben
de
voilà.
tout.
Mais vous, vous êtes coupé, vous dites vous-même. Alors, rebranchez-vous avec toutes ces amies. C'est votre responsabilité, cette partie-là de la relation. Une fois encore, comme je l'explique, dans une relation, chacun est responsable de sa partie de la relation. Et là, vous voulez gérer toute la relation, jusqu'aux réactions de votre mère qui ne sont pas celles que vous espérez.
Oui.
Trouvez la bonne distance et faites-vous aider pour la trouver, cette bonne distance, vraiment.
D'accord.
Ça me paraît urgent maintenant de penser à vous.
Oui.
Et une fois de plus, ça s'appelle de l'égoïsme sain. Si notre propre flamme s'éteint, plus personne ne peut venir s'éclairer. Hein.
Oui, mais je ne suis pas très égoïste, je donne toujours trop.
C'est pour ça que je vous parle d'un égoïsme sain. S'occuper d'abord de soi, c'est quelque chose de sain.
Mais je donnais tellement déjà dans mon métier que voilà. Dans mon métier, je n'ai pas beaucoup reçu non plus.
Eh bien, donnez-vous, offrez-vous à vous maintenant tout ça. Promettez-moi de vous occuper de vous, Angèle, s'il vous plaît.
D'accord. Merci.
Je vous
en prie. Au revoir.
Je vous embrasse. Au revoir.
Au revoir.